Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite un très bon sabbat. Notre argent, nous entreposons notre argent à la banque. Généralement, nous n'allons pas la garder chez nous, ça peut être dangereux. Nous mettons notre argent à la banque, peut-être dans un compte d'épargne. Et la raison pour laquelle nous mettons notre argent à la banque, c'est que nous avons confiance. Nous avons confiance que la banque va bien garder notre argent. Bon, ils vont se servir de notre argent, ça c'est sûr, mais ça c'est une autre question. Mais surtout le fait que nous, de notre côté, nous avons confiance. Ils vont pas voler notre argent, ils vont garder notre argent et ils vont nous restituer notre argent au cas où nous avons besoin. Et c'est assez ironique parce que le système bancaire est un système créé par les hommes, par les êtres humains. Et bien sûr, le système bancaire, c'est un système qui brasse énormément d'argent. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Ce sermon n'est pas sur l'argent. 1 Timothée chapitre 6 et le verset 17. Nous lisons ceci, 1 Timothée chapitre 6 et le verset 17. Recommande aux riches, qui ont de l'argent, aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leurs espérances dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Je lis ce verset dans le Darby qui dit ceci. Enfin, la deuxième partie du verset, et qui ne mettent pas leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu qui nous donne toutes choses richement pour en jouir. Et qui ne mettent pas leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu qui nous donne toutes choses richement pour en jouir. Oui. L'argent, bien entendu, peut être un faux Dieu. On continue à lire dans le verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé, le véritable trésor, sur un plan spirituel, pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle, la véritable vie. La vie spirituelle. Ézéchiel chapitre 7 parle d'une époque à l'avenir. Ézéchiel chapitre 7 et le verset 19. Où l'argent n'aura pas la même valeur que maintenant, parce que les circonstances sont difficiles, vont devenir difficiles. Ézéchiel chapitre 7 et le verset 19. À un moment donné, donc, à l'avenir, ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera pour un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel quand Dieu va intervenir. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Et bien sûr, l'argent est limité. L'argent est limité, l'argent ne peut pas tout faire. Ce n'est pas l'argent dont je voulais vous parler aujourd'hui, mais c'est plutôt la confiance, et plus précisément, la confiance en Dieu. Et le titre de ce sermon, c'est « Faisons confiance en Dieu ». Faisons confiance en Dieu. Faisons confiance à Dieu pour qu'il prend soin de nous, justement. Dans un autre registre, il y a les êtres humains, parce qu'il y a la confiance en Dieu, pour qu'il intervienne dans nos vies, pour qu'il prenne soin de nous. Et puis il y a les êtres humains, nous pouvons aussi avoir des confiances dans les êtres humains, et on peut se poser la question, en qui avons-nous confiance? Proverbe, il y a un verset dans ce contexte que j'aime beaucoup, c'est dans Proverbe chapitre 31, verset 11. la femme vertueuse. Proverbe chapitre 31 et le verset 11. Juste un verset ici à propos de la femme vertueuse. Proverbe 31 verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Pourquoi? Et les produits ne lui feront pas défaut. Pourquoi il a confiance en sa femme, son épouse? Parce qu'il connaît son épouse. Il connaît sa femme. Il a suffisamment fréquenté, que ce soit avant le mariage ou continue à fréquenter, entre guillemets, sa femme pendant le mariage. Et il a appris à connaître auparavant, c'est pour ça qu'il s'est marié, logiquement. Il sait qui elle est. Il continue maintenant marié, il vit avec sa femme, et il continue à savoir qui elle est. Nous faisons confiance, nous, si les gens ne nous ont pas menti, tout au moins sciemment. Nous ne faisons pas confiance à des gens avec qui nous avons eu des mauvaises expériences. Peut-être qu'ils ont menti, ou peut-être qu'ils nous ont trahis, ou peut-être qu'ils, d'une manière ou d'une autre. Il y a donc ces deux catégories, si vous voulez. Et les gens qui nous avons confiance parce qu'à cause de leur caractère. Nous connaissons leur caractère et nous avons confiance en eux à cause d'un certain caractère. Et ce caractère qui ne change pas. Si quelqu'un n'a pas l'habitude de mentir, nous avons confiance en cette personne, par exemple, et la personne continue à bien se comporter, de ne pas mentir, et nous continuons donc, par voie des conséquences, à avoir confiance. Si quelqu'un est bienveillant, nous pouvons avoir, par exemple, confiance en sa bienveillance. Nous savons que cette personne est bienveillante, et on pourrait profiter, entre guillemets, parfois de sa bienveillance, mais c'est quelqu'un, le caractère est stable. Voilà pourquoi nous pouvons continuer à leur faire confiance. Savoir avec le caractère. C'est très très beau de voir les enfants tout petits qui ont confiance en leurs parents parce que ils ne voient pas encore le défaut de leurs parents. Et tout petits, souvent, donc ils ont vraiment vraiment confiance en leurs parents. C'est très beau de voir ce genre de situation. Et Dieu bien sûr veut qu'on devienne comme des petits enfants. Il y a une autre situation. Dans Jérémie chapitre 17, le verset 5, qui est décrit ici, dans Jérémie chapitre 17, verset 5. Bon, nous pouvons avoir confiance en quelqu'un sur un plan humain, connaissant la personne, connaissant bien la personne, sachant que la personne systématiquement va agir comme ceci et cela. J'ai connu, ma femme et moi, nous avons connu quelqu'un à l'époque qui payait pas de mine. Et quand la personne, il disait pas grand chose, mais quand elle a dit qu'elle allait faire quelque chose, elle le faisait. Discrètement, sans forcément qu'on sache, mais elle l'a fait, elle le faisait. Et on savait qu'on pouvait lui faire confiance. Jérémie chapitre 17, verset 5. Ici, c'est un autre cas de figure, différent. Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est un cas bien précis. Il s'agit en l'occurrence d'un genre de vase communicante. Nous allons voir ça. Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, au lieu de se confier en Dieu, justement, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est une vase communicante où on fait confiance aux hommes, au détriment de faire confiance à Dieu, ou bien on fait confiance à Dieu d'abord. Ça c'est différent de le cas de situation dont j'ai parlé tout à l'heure, où nous connaissons quelqu'un et que nous savons que la personne ne va pas faire ceci, ne va pas faire cela. Donc ici il s'agit d'un substitut, si vous voulez, d'un substitut pour le fait de faire confiance à Dieu. Verset 6. Cette personne qui fait confiance aux hommes plutôt que de faire confiance à Dieu, verset 6, il est comme un misérable dans le désert et ne voit point arriver le bonheur Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Le rabbinat parle de bruyère dans les landes. Et apparemment, cette plante, d'après un certain Pliny, était exclue pour les usages religieux parce que ça ne produisait pas de fruits, ne produisait pas de semences, n'était pas semé et n'était pas planté. Donc c'est vraiment un arbre sec. Alors verset 6, il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, en terre salée et sans habitants. En contraste avec ceci, par rapport au fait de faire confiance aux hommes, au détriment de faire confiance à Dieu, verset 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Ce n'est pas rien de faire confiance à Dieu. Ça demande un certain nombre de choses. Verset 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dans l'Éternel est l'espérance. Quelqu'un qui a les yeux sur Dieu. Que Dieu est le centre de sa vie. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il est correctement alimenté spirituellement. Qui étend ses racines vers le courant. Et puis ensuite, maintenant, nous avons cause et effet. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, parce qu'il est alimenté correctement spirituellement. Il peut résister à la chaleur et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et ne cesse de porter du fruit. Et Dieu aide donc ce genre de personne qui lui fait confiance à traverser les moments difficiles dans la vie. Les moments difficiles dans la vie. Il y a la foi, il y a la confiance. La Bible en parle, on parle des deux. La foi, ça peut être plus spécifique, mais les deux aussi vont de pair. Et la confiance, précisément, a à voir avec le cas été fait confiance à Dieu. Ça a à voir avec le fait de voir le caractère de Dieu. C'est le fait de voir le caractère de Dieu, de voir qui il est, comment il est. Et bien sûr, ça aussi concerne notre relation avec Dieu. Alors, ce que j'ai voulu faire dans ce sermon avant d'aller plus loin, donc, c'est de voir un petit peu, en quelques points, le caractère de Dieu pour que nous puissions justement faire confiance à Dieu. Il est important que nous soyons conscients du vrai caractère de Dieu pour pouvoir faire confiance réellement à Dieu. Parce que c'est pas une sinécure. Hébreux, on va commencer avec le premier point, c'est le fait que Dieu ne ment pas. Pas uniquement ce que Dieu ne ment pas, Dieu ne peut pas mentir. Nous, on peut mentir, mais Dieu ne peut pas, c'est son caractère. C'est la même chose que tout à l'heure sur un plan humain, qu'on a vu sur un plan humain. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ou qui a l'habitude de faire ceci et cela, c'est son caractère. Ici, c'est le caractère de Dieu. Dieu ne ment pas. Hébreux chapitre 6, verset 13. Hébreux chapitre 6, verset 13. On peut faire confiance à quelqu'un, et à plus forte raison à Dieu, puisque Dieu ne ment jamais. Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Il jure par lui-même, et Dieu ne peut pas faire plus. Et Dieu va le faire. Les êtres humains sont parfois limités, même s'ils veulent bien. Dieu n'est pas limité. Verset 14. Il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai, et je multiplierai ta postérité. Et bien sûr, on sait que ça s'est réalisé. Verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. C'était une promesse, ça s'est réalisé. Abraham avait confiance en Dieu. Verset 16. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui mette fin à tout leur différend. Verset 17. C'est pourquoi Dieu voulant mettre avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution intervint par un serment. Dieu voulait appuyer ce qu'il a dit. Dieu ne ment pas, mais en plus, il y a ici le serment. Dieu ne peut pas faire plus pour nous, pour montrer que nous pouvons lui faire confiance. Verset 18. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Un puissant encouragement. Nous, dans le seul refuge, a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Dieu a fait par un serment et Dieu ne ment pas. C'est un ancre, comme c'est marqué dans le verset 19, je reviens sur le verset 19, possédant comme un ancre de l'âme sûre et solide. Et ça nous empêche d'être ballottés. Nous avons accès à un Dieu ou à Dieu qui ne ment pas. Et Dieu, bien sûr, est fidèle. C'est un autre aspect qu'on peut peut-être ajouter. Dieu est fidèle. Dieu fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et c'est la même chose avec nous. Quand nous regardons l'Ancien Testament, un des 10 commandements, Dieu a dit de ne pas porter de faux témoignages à son prochain. C'est la loi de Dieu. C'est la caractère de Dieu de nouveau. Psaume, chapitre 132, verset 11. Psaume 132, verset 11. Si je peux juste demander un verre d'eau, s'il vous plaît. Merci. Psaume 132, verset 11. L'Éternel a juré la vérité, et a juré, donc de nouveau, la vérité à David, il n'en reviendra pas. Il n'en reviendra pas, Dieu l'a juré. Donc c'est sûr. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles, et si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, le fils aussi pour toujours sera assis sur ton trône. Ta parole est la vérité, ce qui est marqué dans Jean. Et c'est intéressant quand on compare le caractère de Dieu par rapport au caractère de Satan. Dans Jean chapitre 8 et le verset 44, Satan est l'adversaire de Dieu. Satan, c'est le contraire du caractère de Dieu. Dieu est amour. Il y a la haine chez Satan. Beaucoup de haine. Satan est l'adversaire. Satan est le père des mensonges. Jean chapitre 8, 44. Et on voit donc ces deux voies, c'est le cas de le dire. La voie parfaite de Dieu, avec le caractère parfait de Dieu, avec le fait qu'il ne ment pas, et de l'autre côté, Satan. J'allais dire, oui, je pense qu'on peut dire ça, qui passe son temps à mentir, qui est le père du mensonge, que nous voyons dans notre société. Dans Jean chapitre 8, et le verset 44. Vous avez, le Christ assez direct ici parfois, merci. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été, en parlant de Satan donc, il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, le mensonge, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et si une personne qui connaissait Satan, et Lucifer avant, c'était le Christ. Mais Satan préconise la voie opposée à Dieu. Premier point donc, Dieu ne ment pas et ne peut pas mentir. Le deuxième, voilà pourquoi nous pouvons faire confiance. Simplement une des raisons pour lesquelles nous pouvons faire confiance à Dieu. Deuxième raison, l'Éternel, et là c'est plus personnel cette fois-ci, l'Éternel est notre berger. Nous connaissons le psaume 23 que nous avons chanté tout à l'heure. Et David, bien sûr, pouvait s'identifier avec le fait que Dieu était notre son berger. J'ai un cousin dans les rangs du Nord qui est fils d'agriculteur et qui est aussi lui-même dans l'agriculture et il s'occupe entre autres de ses brebis. Enfin, je ne sais pas s'il le fait toujours, s'il n'a pas la retraite maintenant. Mais je m'appelle avoir discuté une fois avec ma sœur à son sujet. Elle dit, je ne le plains pas, parce que quand vous vous occupez, surtout autrefois, des brebis, c'est-à-dire beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices, les bêtes, c'est comme l'horticulture, les bêtes ont besoin de nous à certaines périodes de l'année, à certains moments de l'année. Et dans des conditions qui peuvent être difficiles, à n'importe quelle heure du jour ou la nuit, quand il y avait les petits, ils pouvaient avoir besoin. Jean chapitre 10, verset 11, et je m'appelle que ma sœur me disait ça, qu'elle n'enviait pas mon cousin. Jean chapitre 10, verset 11. Ben, c'est un, bon, quelque part c'est un sacrifice, mais c'est aussi un choix. Et l'Éternel est notre berger. Jean chapitre 10, verset 11. Le Christ dit ici, dans la verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Un vrai berger, surtout autrefois, il donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Évidemment, il est là pas pour la même raison, peut-être pour l'argent. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, et qui ne se mettent point en peine des brebis. Dieu se met en peine de nous. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Matthieu chapitre 18, verset 12. Dieu est un berger parce qu'il est là pour nos besoins, quand nous avons besoin de lui, que ce soit le jour ou la nuit. Et un berger, autrefois, était tout pour ses brebis. Il était tout pour ses brebis, il amenait l'arrive pour le pâturage, il les protégeait, il prenait soin quand ils étaient malades. Matthieu chapitre 18, verset 12. Un peu à l'époque du frère de Pagnol, qui était, je crois, c'était le dernier chevrier à l'époque dans la région. Mais c'est un peu la même mentalité. Matthieu chapitre 18, verset 12. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis, certainement vrai à l'époque, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Nous, on s'écarte, on peut s'écarter, mais Dieu prend soin de nous. Dieu est toujours notre berger. Et Dieu va nous porter, s'il le faut, par moment. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Un seul de ses petits. Hébreux chapitre 13 et le verset 5. C'est un verset qui est formidable parce que tous les versets sont formidables, mais c'est un verset qui est très encourageant parce que il y a un double négatif dans ce verset. Dieu montre à quel point il se met en peine pour nous. C'est emphatique, dans le grec, c'est emphatique. Hébreux chapitre 13 et le verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Évidemment, c'est plus facile de se livrer à l'amour de l'argent, de faire confiance à l'argent, car Dieu contraste avec le fait de faire confiance en lui, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc, on peut faire confiance à Dieu, Dieu est notre berger, il ne va jamais nous lâcher. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Nous voulons peut-être, sur un plan humain, avoir assez d'argent pour avoir l'esprit serein et l'esprit tranquille. Mais la vraie tranquillité vient de Dieu. C'est Dieu qui peut donner, qui donne la tranquillité. L'assurance, la confiance que Dieu va prendre soin de nous. Car l'avenir, quels que soient nos problèmes, nos difficultés, qui nous aidera à traverser ces nos problèmes, comme il nous a aidés dans le passé, et de nous porter comme nous venons de lire. Luc chapitre 15, verset 7. On va revenir sur Luc chapitre 15 tout à l'heure, mais Luc chapitre 15 et le verset... On va commencer avec le verset 4. Luc 15 et le verset 4. Verset 3, verset 4. Quel homme d'entre vous, si la sombre vie qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue? Le parallèle, donc, par rapport à ce que nous venons de lire, jusqu'à ce qu'il la trouve. Et Dieu, troisième, donc c'est la deuxième chose, c'est que Dieu est notre berger. Le troisième point d'appui, si je puis dire, pour nous aider à avoir confiance à Dieu, c'est que Dieu pardonne. Parfois, nous portons des fardeaux inutilement. Nous portons des poids inutiles parce que nous avons parfois une conscience coupable. Et ça pèse sur nos épaules. Dans Exode chapitre 34, verset 5. Mais il y a l'encouragement que Dieu donne ici, dans Exode 34, verset 5. Exode 34, verset 5. Ce qui est intéressant dans ces quelques versets, c'est que c'est Dieu qui parle à propos de lui-même, à propos de son propre caractère. On rejoint ce que nous avons vu tout à l'heure. Exode 34, verset 5. L'Éternel descendit, donc c'était avec Moïse, avec les 10 commandements. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. Il dit, Dieu se décrit. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve bien toute une suite d'adjectifs, traits de caractère, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, et c'est pour ça que nous venons dans l'Église. Nous demandons pardon à Dieu, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point de coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Nous voyons ici la valeur de ces paroles parce que c'est Dieu qui parle. Et Dieu se révèle aussi, par les 10 commandements, bien entendu. Dieu révèle son caractère. Peut-être parmi les meilleurs exemples qu'on peut citer, le fait que Dieu pardonne et à quel point Dieu pardonne, nous pardonne, c'est pour ça qu'on peut faire confiance en Dieu. Luc chapitre 15, verset 12, le fils prodigue. Luc chapitre 15, verset 12, ça montre l'ampleur de l'amour de Dieu, à quel point Dieu pardonne. Dieu nous a donné beaucoup, entre parenthèses, nous sommes responsables pour ce que Dieu nous a donné. La responsabilité individuelle de nos jours a tendance à se perdre avec toutes sortes de choses, avec toutes sortes de mouvements. Mais nous sommes responsables, mais ici dans Luc chapitre 15, verset 12, et dans le fils prodigue, le fils prodigue finit par prendre ses responsabilités. Verset 12. Le plus jeune, vous connaissez le fils prodigue, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Il prend, qu'à le dire, et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. C'est grave. C'est mauvais. C'est très mauvais. En vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Et évidemment, il avait tout dépensé. Il avait dilapidé son argent. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aura bien voulu se rassasier des carouges, parce qu'il avait faim, que manger les pourceaux, mais personne lui en donnait. Puis le verset 17, où on voit qu'il prend ses responsabilités, il assume ses responsabilités. Le verset 17 parle du repentir. Aujourd'hui, c'est pas un serment sur le repentir, donc je ne vais pas entrer dans le détail, mais il assume ses responsabilités. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Il commence à voir la voie, se rend compte de ce qu'il a fait. Verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il y a les deux côtés. Ici, on voit qu'il prend ses responsabilités, mais Dieu est un Dieu de compassion, Dieu est un Dieu de miséricorde. La compassion étant, bien sûr, ce sentiment que nous pouvons avoir. Verset 20. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. C'est à ce point-là, avec tout ce qu'il a fait de mauvais, il a dissipé tout son bien, la moitié de ce qu'il avait, je suppose. Et malgré ça, le père, qui représente bien sûr Dieu, le père, il est ému de compassion parce qu'il revient. Verset 21, le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « C'est une fête royale. » Il a droit maintenant à une fête royale, malgré son passé, parce que Dieu pardonne. « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, réjouissons-nous, les deux côtés, hein, car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, sur un plan spirituel, et il est retrouvé. Il est perdu, il est retrouvé. C'est un constant de la part de Dieu. Dieu pardonne, Dieu nous pardonne quand nous sommes, pour que nous puissions être baptisés, mais Dieu continue à nous pardonner quand nous sommes toujours dans l'Église, quand nous nous écartons dans Psaume 103, verset 11. Dans Psaume 103, verset 11. Psaume 103 et le verset 11. C'est aussi un écriture qui est très, très, très encourageant. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui la craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui la craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Dieu sait qui nous sommes. Dieu connaît nos faiblesses, mais nous n'avons pas besoin de porter le fardeau de la culpabilité. On se repent et Dieu pardonne et éloigne nos péchés. La quatrième chose que j'ai voulu évoquer aujourd'hui, c'est le fait que Dieu est miséricordieux. Le fait que Dieu est miséricordieux Il est miséricordieux comme il nous traite. Naomi, vous rappelez, on va peut-être regarder ça dans Ruth. Naomi a connu des difficultés. Et Naomi revient avec sa belle-fille. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses deux fils. Elle revient chez elle. Elle avait appris que Dieu avait visité le pays. Et vous rappelez qu'elle s'appelait Naomi. Et vous avez peut-être une annotation en bas de votre Bible. Moi, je l'ai à la fin du chapitre, pas à la fin, mais au milieu du chapitre 2, où c'est marqué « Naomi dérive d'un mot qui signifie beauté, douceur. » Et voilà qu'elle dit l'appeler Mara. Dérive d'un mot qui signifie amertume ou tristesse. Donc, il y a une certaine disposition d'esprit, un certain état d'esprit, de Naomi quand elle revient au pays. Elle a eu des grandes souffrances. Les choses commencent à changer parce que Dieu est bon, parce que Dieu est miséricordieux. Et dans chapitre 2, le verset 20, on voit que les choses changent et on voit que Dieu ne se lâche pas de pardonner et d'être miséricordieux. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni, parce que c'est donc Boaz qui prend soin de Ruth, commence à prendre soin de Ruth ici, qu'il soit béni, elle parle donc de Boaz, qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Elle a changé la disposition d'esprit. Qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Dieu commence à intervenir et elle parle de la miséricorde de Dieu ici. Juste en vitesse, Lamentation chapitre 3 verset 9. Lamentation est un livre qui est difficile à lire. Difficile à lire parce qu'il y a beaucoup de souffrances. Difficile à lire parce qu'il y a des punitions de la part de Dieu, avec des conséquences sévères. Mais même dans ce livre de lamentation, il y a de l'encouragement de la part de Dieu, parce que Dieu est toujours et sera toujours miséricordieux. Dans Lamentation, chapitre 3, et le verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, situation très pénible, Lamentation chapitre 3 verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, c'était difficile, c'était très pénible, beaucoup de souffrance. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Évidemment, c'est un plan humain. Elle est abattue au-dedans de moi. Mais voilà le verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Il va garder ça en tête. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu est toujours miséricordieux. Même quand nous passons des moments difficiles, même quand nous sommes découragés, et même quand nous payons parfois des pénalités pour nos erreurs, Dieu est toujours miséricordieux. Nous pouvons continuer. Le caractère de Dieu, je vous ai donné que 4 points qui nous permettent d'avoir plus de confiance en Dieu. Il y a les promesses de Dieu, l'amour de Dieu qui a fait ses preuves. La liste est vraiment assez longue. Paul a écrit aux Corinthiens à un moment donné. Parce que Paul, qui avait l'habitude de faire confiance en Dieu, à Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 1 et le verset 8. 2 Corinthiens chapitre 1 et le verset 8. « 2 Corinthiens chapitre 1, verset 8, l'apôtre Paul ici a souffert une situation qui était pénible. Vous avez les détails, je m'y rapporte pas, mais vous avez les détails dans Actes chapitre 19, et à partir du verset 23. Actes 19, verset 23, si vous voulez regarder ça à la maison. Ici, je vous lis que ce que Paul a écrit aux gens de Corinthe, dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 8, « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » Situation particulièrement difficile. Verset 9. « Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin, pourquoi ces choses-là sont arrivées, pourquoi Dieu l'a permis, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, nous les êtres humains, et pourtant Paul avait beaucoup de capacités sur un plan humain, beaucoup d'aptitudes, beaucoup de talents. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu. Il était dans une situation où il était obligé de faire confiance en Dieu. Et parfois, Dieu peut nous faire passer par là. En nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Dans les proverbes, il y a des pépites, il y a beaucoup de pépites dans les proverbes, beaucoup de sagesse dans les proverbes, et beaucoup de pépites que nous pouvons absorber sur nous. Et que ce soit vraiment personnel pour nous. Proverbes chapitre 3, verset 5. Que ce soit très pratique pour nous. Proverbes chapitre 3 et le verset 5. Un conseil donc que Dieu nous donne. Verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » De tout ton cœur, de vraiment faire confiance en Dieu, à Dieu. Et c'est pour ça que j'ai parlé de ces quatre points avant, parce qu'il faut aussi que nous soyons conscients de qui Dieu est, de la profondeur de l'amour de Dieu, et le fait que Dieu ne ment pas, et ainsi de suite. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Nous pouvons nous appuyer sur notre sagesse. Si c'est bien, c'est bien, mais bien sûr, la sagesse de Dieu est parfaite. C'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur Dieu et pas sur nous-mêmes. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies, dans toutes tes voies. Et il aplanira, je vais aplanir. Il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Dieu va aplanir le chemin. Souvent maintenant, je demande à Dieu, que ce soit pour les voyages, que ce soit pour autre chose, que Dieu aplanisse le chemin. Nous aplanissons le chemin, ma femme et moi, parce que je vois un certain nombre de choses. Et j'ai besoin que Dieu aplanisse mon chemin, notre chemin. J'ai vraiment besoin. Dans plusieurs aspects, bien sûr, nous sommes tous concernés à différents niveaux. Tout ça peut nous aider à avoir confiance. Ce qui peut nous aider à avoir confiance en Dieu, c'est de regarder en arrière. C'est de regarder en arrière dans nos vies personnelles et de voir quand Dieu est intervenu dans nos vies personnelles. Et on devrait être capable de voir en arrière et de constater quand Dieu est intervenu. À un moment donné dans ma vie, c'était assez pénible, et j'avais un CDD, j'avais un travail, je ne trouve pas l'expression, à durée, voilà, un travail, un contrat à durée déterminée. Je ne sais pas si vous avez ça en Suisse, mais en France, un contrat à durée déterminée. Donc je savais que j'allais travailler pour un certain nombre de mois, c'était même pas à temps plein, Et après, ça allait être terminé, et l'épreuve du chômage allait recommencer. Et voilà qu'on m'appelle dans le bureau de responsable, et on me propose un CDI, un contrat à déterminer, durée indéterminée, un travail normal, même s'il y avait quelques heures qui manquaient. Et c'était inespéré pour moi. À mes yeux, il y avait beaucoup de personnes qui étaient plus qualifiées que moi. J'ai dû sortir du bureau et il fallait que je garde ça pour moi, et c'était difficile parce qu'il fallait que je continue à travailler, il y avait l'émotion, mais c'était un cas dans ma vie, un exemple dans ma vie, où je regarde en arrière, où j'ai vraiment pu voir la main de Dieu, et ça m'aide pour l'avenir. 1 Pierre chapitre 2 verset 1. Mais c'était un moment fort, spirituellement. Un moment très fort. 1 Pierre chapitre 2 verset 1. Parce que Dieu était devenu. Je voyais beaucoup d'autres personnes, beaucoup plus qualifiées que moi. 1 Pierre chapitre 2 verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, et ça c'est notre but, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Bien si ici, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et on doit pouvoir regarder en arrière dans notre vie et regarder en arrière et de pouvoir voir que Dieu était bon pour nous. Malgré nos erreurs, malgré nos faiblesses, malgré le fait qu'on s'écarte de la voie de Dieu par moment, que Dieu était et que Dieu continue à être bon. D'avoir goûté que le Seigneur est bon. Et donc, le verset 1 à 3 se tient. Rejetant toute malice, faisant tout ceci, donc une croissance spirituelle, de rejeter le mal, désirer, là c'est le désir, désirer comme des enfants nouveau-nés l'esprit spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez. La croissance est nécessaire pour nous, pour qu'on puisse entrer dans le royaume. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si on a vu le caractère, vous pouvez aussi ajouter psaume 34, le verset 9 à 11, il ne me rapporte pas. Psaume 34, versets 9 à 11. Si nous avons goûté que le Seigneur est bon, nous savons que nous pouvons lui faire confiance. Nous savons que nous pouvons compter sur Dieu dans chaque aspect de notre vie. Parce que c'est Dieu qui fera ce qui est le mieux pour nous. Mais il y a un autre si. Si nous le laissons faire. Si nous le laissons faire, si nous confions nos vies à Dieu, il y a des possibilités énormes avec Dieu, quel que soit nos handicaps, quel que soit notre âge, il y a des possibilités énormes. Et qui arrivent quand on a confié la situation à Dieu. Mais il faut vraiment avoir confiance. Il faut vraiment avoir confiance. Nous avons une difficulté personnelle. Notre difficulté personnelle, nous avons prié, nous avons jeûné, et quelque chose qui est plus grand que nous, par exemple, et qu'on ne peut pas résoudre tout seul, et nous sommes inquiets. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5 et le verset 6. Humiliez-vous donc, j'ai parlé du jeûne tout à l'heure, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable, en son temps. Et déchargez-vous sur lui, ça c'est notre part, Dieu va toujours faire sa part. Verset 7, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Quand nous sommes éprouvés, et nous sommes éprouvés, et donc d'avoir cette confiance en en Dieu pendant nos difficultés. Si nous arrivons à avoir confiance en Dieu, nous n'avons pas besoin de s'inquiéter. Nous pouvons le garder dans les mains de Dieu. Mais le problème avec ça, ce qui se passe ou ce qui peut se passer, c'est qu'on peut faire confiance en Dieu, on lui confie nos problèmes, mais on peut aussi reprendre la situation dans le sens que, à un moment donné, peut-être, on revient en arrière et on ne fait plus totalement confiance en Dieu. On peut retirer, voilà ce que je cherchais. Il faut retirer, on peut retirer notre confiance. Mais Dieu, si on laisse faire, Dieu veille, Dieu voit, Dieu comprend, Dieu voit et Dieu veille. C'est vraiment le fait de se confier en Dieu. L'exemple classique de ceci, c'est le sabbat, bien sûr. Nous voulons observer le sabbat. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des obstacles, mais il faut vraiment avoir confiance en Dieu. Nous pouvons faire confiance à Dieu parce qu'il a jugé bon de faire de nous ses enfants d'adoption. Parce qu'il a jugé bon de faire de nous ses enfants d'adoption, de faire de nous ses enfants bien-aimés. Il est notre Père, un Père tout-puissant, un Père qui est bon, un Père qui est généreux, compatissant, miséricordieux, qui nous aime au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, qui veut nous voir entrer dans le royaume, qui veut nous voir naître, dans sa famille divine. Oui, nous pouvons lui faire entièrement confiance.